Chapitre 23. Journal du docteur Seward. 3 octobre.
Le temps nous parut très long lorsque nous dûmes attendre le retour de Godalming et de Quincey Morris. Le professeur fit en sorte de garder nos esprits en alerte, en les faisant fonctionner sans cesse. Je pouvais deviner son intention bienveillante au regard qu'il lançait de temps à autre à Harker. Le pauvre garçon est submergé d'une telle douleur que c'en est effrayant à regarder. Hier soir, il était encore un homme ouvert, à l'apparence heureuse, avec un visage fort et jeune, plein d'énergie et des cheveux très noirs. Aujourd'hui, il est un vieillard hagard, aux traits tirés, dont les cheveux blancs s'harmonisent parfaitement avec les yeux creusés, brûlants, et les rides qui ont imprimé le chagrin sur son visage. Son énergie est cependant toujours intacte, il est vif comme une flamme. Cela pourrait d'ailleurs le sauver, car si tout se passe bien, cela lui permettra de traverser le passage le plus désespéré. Il pourra alors, en quelque sorte, se réveiller aux réalités de la vie. Pauvre garçon, je croyais être à plaindre, mais que devrais-je dire de lui? Le professeur est très conscient de tout cela et fait tout son possible pour lui occuper l'esprit. Ses paroles, d'ailleurs, dans les circonstances où nous nous trouvions, étaient de nature à nous intéresser et même à nous absorber. Les voici, si ma mémoire est à peu près fidèle. J'ai étudié et réétudié plusieurs fois, depuis qu'ils sont entre mes mains, tous les documents relatifs à ce monstre, et plus je l'étudie, plus je suis convaincu de la nécessité de l'éradiquer complètement. Il existe depuis le début des signes de son développement, non seulement de son pouvoir, mais aussi de la connaissance qu'il en a. Comme je l'ai appris grâce aux recherches de mon ami Arminius de Budapest, il fut dans la vie un homme des plus extraordinaires. Soldat, homme d'État et alchimiste, cette dernière science étant la fine fleur de la science de cette époque. Il était doté d'un cerveau puissant, d'une capacité d'apprendre hors pair, et d'un cœur qui ne connaissait ni la peur ni le remords. Il fut même assez audacieux pour suivre les enseignements de Scholomance, l'école d'alchimie de Transylvanie, et il n'y eut pas une branche de la science de son époque qu'il n'essaya pas de maîtriser. Eh bien, ce pouvoir cérébral est demeuré après sa mort physique, bien qu'il semblerait que sa mémoire ne soit pas absolument complète. Dans certains domaines de l'esprit, il s'est comporté et se comporte encore comme un enfant. Mais il évolue, et sur certains points où il pouvait se montrer infantile, il est devenu un homme mûr. Il fait des expériences, et il les fait bien. Et si nous ne nous étions pas trouvés sur son chemin, il serait aujourd'hui, et il peut encore devenir si nous échouons, le père ou le protecteur d'une nouvelle race d'êtres, dont le destin se trouverait dans la mort et non dans la vie. Harker gémit et dit « Et cette puissance est déployée contre ma tendre épouse ». Mais comment fait-il ces expériences? La connaissance peut nous aider à le vaincre. Depuis le début, depuis son arrivée, il éprouve son pouvoir, lentement mais sûrement. Ce gros cerveau d'enfant qu'il possède est en ébullition. Il est bon pour nous qu'il soit à ce stade encore un cerveau d'enfant, car s'il avait osé au début accomplir certaines choses, il serait depuis bien longtemps bien au-delà de notre pouvoir. Quoi qu'il en soit, il souhaite réussir, et un homme qui a des siècles devant lui peut se permettre d'attendre et d'aller lentement. Festina lente pourrait bien être son tempo. « Je ne comprends pas bien, » dit Harker d'un air fatigué. « Oh, soyez, je vous en prie, très direct avec moi. » Peut-être que la douleur et l'angoisse affaiblissent mon cerveau. » Le professeur posa tendrement la main sur son épaule, en poursuivant. « Ah, mon enfant, je serai direct. Ne voyez-vous pas comment, récemment, ce monstre a progressé expérimentalement dans son savoir? Comment il s'est servi du patient zoophage pour parvenir à pénétrer dans la maison de John? Car notre vampire, bien qu'il soit capable, dans un second temps, d'aller et venir à sa volonté, doit d'abord être invité dans un lieu par l'un de ses résidents. Mais cela ne constitue pas son expérimentation la plus cruciale. Ne voyons-nous pas qu'au début, ces immenses boîtes de terre étaient transportées par d'autres? Il ne savait pas alors, cela tombe sous le sens. Mais au fur et à mesure, son grand cerveau d'enfant mûrit, et il commença à songer qu'il pourrait les déplacer lui-même. Alors, il commença par donner un coup de main, et puis, quand il découvrit que cela ne posait aucune difficulté, il se mit à les transporter tout seul. Et ainsi, il progresse, et il disperse ses cercueils, et nul autre que lui ne sait où ils sont dissimulés. Il peut avoir eu l'intention de les enterrer profondément dans le sol. Comme il ne les utilise que la nuit, ou à un moment où il peut changer de forme, cela lui est bien égal, et personne ne peut savoir qu'elles lui servent de repère. Mais, mon enfant, ne désespérez pas, car cette connaissance, il ne l'acquiert que trop tard. Actuellement, tous ses repères sont stérilisés, sauf un seul, et au coucher du soleil, le dernier repère sera stérilisé aussi. Alors, il n'aura plus de place où aller se cacher. J'ai retardé notre départ ce matin, afin que nous en soyons certains. N'avons-nous pas un enjeu plus important que lui? À ma montre, il est 1 heure, et si tout va bien, ami Arthur et Quincey sont sur le chemin du retour. Aujourd'hui est notre jour, et nous devons aller lentement, mais sûrement, et ne perdre aucune opportunité. Vous voyez, nous serons 5 quand ceux qui sont absents reviendront. » Tandis qu'il parlait, nous fûmes interrompus par des coups frappés à la porte. Les 2 coups du garçon du télégramme. Nous nous précipitâmes tous d'un même élan dans le hall, et Van Helsing, levant la main vers nous pour nous enjoindre au silence, marcha vers la porte et l'ouvrit. Le garçon tendait une dépêche. Le professeur referma la porte et, après avoir regardé l'adresse de l'expéditeur, l'ouvrit et la lut à haute voix. « Surveillez l'arrivée de D. Il vient juste à 12h45 de sortir de Carfax précipitamment et il s'est hâté vers le sud. Il semble faire un tour et veut peut-être vous voir. Mina. » Il y eut un silence que rompit la voix de Jonathan Harker. « Maintenant, grâce à Dieu, nous allons enfin nous rencontrer. » Van Helsing se retourna vers lui vivement et dit « Dieu agira en son temps et à sa façon. N'ayez pas peur et ne vous réjouissez pas non plus pour le moment, car ce que nous désirons pour le moment pourrait bien entraîner notre destruction. » « Je ne me soucie plus de rien, répondit-il fiévreusement, que de débarrasser la création de cette brute. Je vendrai mon âme pour cela. » « Oh, tout doux, mon enfant, dit Van Helsing. Dieu n'achète pas les âmes dans sa sagesse. Quant au diable, bien qu'il les achète parfois, il n'a pas la foi. Mais Dieu est miséricordieux et juste. » Et il connaît votre douleur et votre dévouement pour Madame Mina. Pensez à elle comme sa peine serait redoublée si elle entendait seulement vos paroles sauvages. Ne craignez aucun d'entre nous, nous sommes tous dévoués à cette cause et aujourd'hui en verra l'aboutissement. Le temps d'agir est venu. Aujourd'hui, ce vampire est limité au pouvoir des humains. Et jusqu'au coucher du soleil, il ne peut se transformer. Il lui faudra du temps pour arriver ici. Voyons, il est 1h20. Et il nous reste du temps avant qu'il soit en mesure d'apparaître, même s'il est plus rapide qu'il n'a jamais été. Ce que nous devons espérer, c'est que Monseigneur Arthur et Quincey arrivent en premier. Environ une demi-heure après avoir reçu le télégramme de Mrs. Harker, nous entendîmes un coup ferme et résolu à la porte d'entrée. Il s'agissait d'un coup ordinaire, comme en frappent quotidiennement des milliers de gentlemen. Mais il fit s'emballer le cœur du professeur et le mien. Nous nous regardâmes et, ensemble, nous sortîmes dans le hall, nos diverses armes prêtes à l'emploi, les armes spirituelles dans la main gauche et les armes physiques dans la main droite. Van Helsing tira le verrou et, ouvrant à demi la porte, il recula, les deux mains libres pour l'action. La joie de nos cœurs dut remonter jusqu'à nos visages, quand, sur le pas de la porte, nous vîmes Lord Godalming et Quincey Morris. Ils entrèrent rapidement et fermèrent la porte derrière eux. Puis le premier dit, alors qu'ils entraient dans le hall, « C'est bon, nous avons trouvé les deux repères, qui contenaient chacun 6 boîtes, et nous les avons toutes détruites. »« Détruites ?» demanda le professeur. « Détruites pour lui. » Nous restâmes silencieux une minute, puis Quincey dit « Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre ici. Si toutefois il ne se présente pas avant 17 heures, nous devrons y aller, car nous ne pouvons laisser Mrs. Harker seule après le coucher du soleil. » « Il sera là bientôt maintenant, » dit Van Helsing, qui avait consulté son carnet de poche. « Nota bene, d'après le télégramme de madame, il s'est rendu vers le sud, ce qui signifie qu'il a dû traverser la rivière. Et il n'a pu le faire qu'à marée basse, ce qui devait être un peu avant 1 heure. Le fait qu'il se soit rendu vers le sud a une importance pour nous. Il n'a pour l'instant que des soupçons et il s'est rendu en premier de Carfax à l'endroit où il attendait le moins une intrusion. Vous deviez vous trouver à Bermondsey très peu de temps avant lui. Le fait qu'il ne soit pas déjà là prouve qu'il s'est alors rendu à Mile End. Cela a dû lui prendre du temps, car il a dû franchir le fleuve d'une façon ou d'une autre. Croyez-moi, mes amis, nous n'aurons pas à attendre longtemps maintenant. Nous devrions avoir préparé un plan d'attaque afin de mettre toutes les chances de notre côté. Hush, il n'est plus temps. Prenez toutes vos armes, soyez prêts. Il leva la main en signe d'avertissement tandis qu'il parlait, car nous entendîmes tous une clé tourner doucement dans la serrure de la porte d'entrée. Je ne pus m'empêcher d'admirer, même à un pareil moment, la façon dont un esprit supérieur s'affirme. Au cours de toutes nos parties de chasse et de toutes nos aventures dans différentes parties du monde, Quincey Morris avait toujours été celui qui organisait l'action, et Arthur et moi étions habitués à lui obéir tacitement. Aujourd'hui, l'ancienne habitude semblait revenir instinctivement. Avec un regard circulaire autour de la pièce, il définit immédiatement un plan d'attaque, et sans prononcer un mot, avec de simples gestes, il nous plaça chacun en position. Van Helsing, Harker et moi, nous nous trouvions juste derrière la porte de la salle à manger, de façon à ce que, une fois cette porte ouverte, le professeur pût la garder, tandis que nous deux, en nous avançant, nous fassions un barrage entre l'intrus et la sortie. Godalming derrière et Quincey devant se tenaient juste hors de vue, prêts à bondir devant la fenêtre. Nous attendîmes dans un suspense qui fit passer les secondes avec la lenteur d'un cauchemar. Des pas lents et précautionneux avancèrent dans le hall. Le comte était évidemment préparé à être surpris, ou tout au moins, il le craignait. Soudainement, d'un seul bond, il s'élança dans la pièce, se frayant un chemin avant qu'aucun d'entre nous put seulement lever la main pour l'arrêter. Il y avait quelque chose de félin dans son mouvement, quelque chose de si inhumain que cela nous dégrisa tous du choc de son arrivée. Le premier à agir fut Harker, qui, d'un mouvement preste, se jeta devant la porte menant à la pièce qui se trouvait en façade de la maison. Lorsque le comte nous vit, un rictus moqueur passa sur son visage, découvrant ses canines longues et pointues. Mais le sourire diabolique se mua presque instantanément en un regard de mépris léonin. Son expression changea encore, lorsque, dans une impulsion commune, nous avançâmes tous vers lui. Il était bien dommage que nous n'eussions pas un plan de bataille mieux organisé, car même à cet instant, je me demandais ce que nous allions faire. Je ne savais pas moi-même si nos armes mortelles nous serviraient à quoi que ce soit. Harker avait manifestement l'intention de s'en assurer, car il avait brandi son grand couteau Kukri et avait porté un coup féroce et soudain. Le coup était puissant, et seule la rapidité diabolique de l'esquive du comte le sauva. Une seconde de plus, et la lame tranchante transperçait son cœur. En l'état, la pointe n'entailla que le tissu de son manteau, faisant une large déchirure d'où jaillirent un paquet de billets de banque et un flot de pièces d'or. L'expression sur le visage du comte était si infernale qu'à un moment j'eus peur pour Harker, quand je le vis porter un nouveau coup de son terrible couteau. Instinctivement, je m'avançai pour le protéger, brandissant le crucifix et l'hostie de ma main gauche. Je sentis un immense pouvoir traverser mon bras, et ce fut sans surprise que je vus le monstre reculer de peur, avant qu'un mouvement similaire ne fût spontanément exécuté par chacun d'entre nous. Il serait impossible de décrire l'expression de haine et de malignité déconcertée, de colère et de rage infernale, qui passa sur le visage du comte. Son teint cireux vira au jaune verdâtre, par contraste avec ses yeux brûlants, et la cicatrice écarlate sur le front livide béait comme une blessure palpitante. L'instant d'après, dans un plongeon de côté, il glissa sous le bras de Harker, à l'endroit où le coup pouvait porter, et agrippant au passage une poignée de billets, il se précipita à travers la pièce et se jeta contre la fenêtre. Au milieu du fracas et des éclats brillants du verre brisé, il culbuta sur les pavés de la cour en dessous. À travers le bruit du verre, je pus entendre le tintement des pièces d'or qui tombaient dans la cour. Nous nous précipitâmes et le vîmes se relever indemne. Il traversa la cour pavée à pas rapides et ouvrit d'un coup la porte des écuries. Là, il se tourna vers nous et nous lança. « Vous croyez que vous me mettez en difficulté, vous, avec vos visages pâles, tous en rang comme des moutons chez le boucher. Vous allez le regretter très bientôt, tous autant que vous êtes. Vous pensez m'avoir privé de tous mes refuges. Mais j'en ai d'autres. Ma vengeance ne fait que commencer. Elle s'étendra sur des siècles, et le temps est de mon côté. » Les filles que vous aimez tous sont déjà miennes, et à travers elles, vous et les autres serez aussi à moi. Mes créatures, mes chacals, faits pour obéir à mes ordres et pour me servir de nourriture lorsque j'en aurai besoin. Bah ! Avec un rictus méprisant, il franchit vivement la porte, et nous entendîmes le craquement du bois pourri quand il la bloqua derrière lui. Elle était maintenant hors d'usage pour s'ouvrir ou pour se fermer. Le premier d'entre nous à parler fut le professeur, lorsque, prenant conscience de la difficulté de le suivre dans les écuries, nous nous déplaçâmes en direction du hall. « Nous avons appris quelque chose, beaucoup. En dépit de ses paroles bravaches, il nous craint. Il craint de manquer de temps. » Il craint le manque. Car sinon, pourquoi se dépêcher autant? Son intonation même l'a trahi, ou bien mes oreilles me jouent des tours. Pourquoi avoir pris cet argent? Poursuivez-le! Vous êtes des chasseurs de bêtes sauvages, vous vous y connaissez! Quant à moi, je m'assure que rien ici ne pourra lui être d'aucune utilité pour le cas où il reviendrait. » Tout en parlant, il enfouit dans ses poches l'argent restant, saisit les actes de vente dans le dossier où Harker les avait laissés, et balança tous les autres objets dans l'âtre de la cheminée, avant d'y mettre le feu à l'aide d'une allumette. Godalming et Morris s'étaient élancés dans la cour, et Harker avait sauté par la fenêtre pour suivre le comte. Celui-ci avait, cependant, si bien bloqué la porte de l'écurie, que lorsqu'enfin ils réussirent à la forcer, il n'y avait plus signe de lui. Van Helsing et moi, nous essayâmes de glaner quelques informations à l'arrière de la maison, mais les écuries étaient désertes, et personne ne l'avait vu partir. Il était maintenant tard dans l'après-midi, et le coucher du soleil approchait. Nous dûmes reconnaître que nous avions perdu la partie, et avec des cœurs lourds, nous tombâmes d'accord avec le professeur lorsqu'il dit « Retournons auprès de Madame Mina. Pauvre, pauvre, chère Madame Mina. Tout ce que nous pouvions faire pour le moment a été fait, et au moins là-bas, nous pouvons la protéger. Mais nous ne devons pas désespérer. Il ne reste qu'une seule boîte de terre, et nous devons essayer de la trouver. Quand nous l'aurons trouvée, tout peut encore se terminer pour le mieux. » Je voyais bien qu'il parlait avec tout le courage possible pour réconforter Harker. Le pauvre garçon semblait brisé. De loin en loin, il poussait un gémissement qu'il ne pouvait réprimer. Il pensait à sa femme. Le cœur gros, nous revînmes chez moi, où nous trouvâmes Mrs. Harker qui nous attendait avec des dehors chaleureux qui faisaient honneur à son courage et à son altruisme. Quand elle vit nos visages, le sien devint pâle comme la mort. Pendant une seconde ou deux, ses yeux se fermèrent comme si elle priait secrètement. Puis elle dit avec chaleur « Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Oh, mon pauvre amour !» À ces mots, elle prit la tête grise de son mari dans ses mains et l'embrassa. « Reposez votre pauvre tête ici. Tout ira bien, mon cher. Dieu nous protégera, s'il le veut, dans sa providence. » Le pauvre garçon gémit. Il n'y avait pas de place pour les mots dans son sublime supplice. Nous prîmes une sorte de souper sommaire, et je crois que cela nous ragaillardit quelque peu. Était-ce la simple chaleur animale de la nourriture venant dans des estomacs affamés, car aucun d'entre nous n'avait rien pris depuis le petit déjeuner, ou était-ce notre compagnonnage qui nous fit du bien ? Toujours est-il que nous nous sentîmes moins malheureux et pûmes considérer le lendemain avec une petite pointe d'espoir. Fidèles à notre serment, nous racontâmes à Mrs. Harker tout ce qui s'était passé, et bien que son teint tournât au blanc neigeux au moment de notre récit où un danger menaçait son mari, et au rouge lorsque la dévotion de Jonathan à sa propre personne se manifestait, elle écouta tout bravement et dans le plus grand calme. Quand nous arrivâmes à la partie où Harker s'était rué sur le comte si rudement, elle s'accrocha au bras de son mari et le tint serré comme si son étreinte pouvait le protéger d'un éventuel danger à venir. Elle ne dit pas un mot cependant, jusqu'à ce que la narration soit terminée et que tous les sujets aient été abordés jusqu'au moment présent. Alors, sans lâcher la main de son mari, elle se leva au milieu de nous et prit la parole. Oh, que ne donnerais-je pour donner une idée de cette scène, de cette femme douce et si bonne, dans toute la radieuse beauté de sa jeunesse et de son animation. La cicatrice rouge sur son front dont elle était consciente et que nous ne pouvions regarder sans un grincement de dents. Au souvenir des causes et des circonstances qui la firent apparaître, le contraste entre sa gentillesse aimante et notre sinistre haine, entre sa tendre foi et le cortège de nos doutes et de nos peurs. Et nous, pleinement conscients, si les symboles signifient quelque chose, que que, malgré toute sa bonté, sa pureté et sa foi, elle était rejetée par Dieu. « Jonathan, dit-elle, et ce nom, si plein d'amour et de tendresse, résonna comme une musique sur ses lèvres. Mon cher Jonathan, et vous tous, mes bons amis, je veux que vous gardiez tous quelque chose à l'esprit pendant ces moments effrayants. Je sais que vous devez combattre, que vous devez même détruire, comme vous avez détruit la fausse Lucie pour que la vraie Lucie puisse accéder à la vie éternelle. Mais cela n'est pas une œuvre de haine. Cette pauvre âme qui a causé toute cette souffrance est le cas le plus triste de tous. Pensez seulement à sa joie lorsque lui aussi sera détruit dans sa part d'ombre, afin que sa part de lumière puisse avoir l'immortalité spirituelle. Vous devez avoir pitié de lui, bien que cela ne doive pas retenir vos mains lorsqu'il s'agira de le détruire. » Tandis qu'elle parlait, je pouvais voir le visage de son mari s'assombrir et se tirer, comme si la passion à l'intérieur de lui était en train de flétrir son être jusqu'au noyau. Instinctivement, il serra plus fort la main de sa femme, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle ne tressaillit pas sous l'effet de la douleur qu'elle devait, je le savais, ressentir, mais elle le regarda avec des yeux plus suppliants que jamais. Après qu'elle eut fini de parler, il sauta sur ses pieds, arrachant presque sa main de la sienne, en disant « Que Dieu le mette à ma portée, juste le temps de le détruire de sa vie mortelle, ce qui est notre but. Si, au-delà de cela, je pouvais envoyer son âme brûler éternellement en enfer, je le ferais. Oh, taisez-vous, taisez-vous! Au nom du Dieu de bonté, ne dites pas des choses pareilles, Jonathan, mon époux, ou vous me briserez de peur et d'horreur. Pensez seulement, mon amour, j'ai eu le temps de penser à cela, j'y ai pensé toute la journée, que, peut-être, un jour, moi aussi, je pourrais avoir besoin d'une telle pitié, et qu'un autre, semblable à vous, avec d'aussi bonnes raisons d'être en colère, pourrait me refuser sa pitié. Oh, mon époux, vraiment, j'aurais évité de partager avec vous une telle pensée s'il y avait eu un autre moyen. Mais je prie pour que Dieu n'ait pas pris vos dures paroles autrement que comme le hurlement d'un cœur brisé, d'un homme plein d'amour et très tristement frappé. Oh Dieu, que ses pauvres cheveux blancs soient la preuve de ce qu'il a subi. Lui qui de sa vie n'a rien fait de mal et sur lequel se sont abattus tant de malheurs. Nous, les hommes, nous étions tous en larmes à présent. Il était impossible d'y résister et nous pleurâmes sans nous cacher. Elle pleura aussi en voyant que ses conseils les plus doux avaient porté leurs fruits. Son mari tomba à genoux devant elle. Et l'entourant de ses bras, il cacha son visage dans les plis de sa robe. Van Helsing nous fit signe et nous sortîmes de la pièce, laissant les deux amants seuls avec Dieu. Avant qu'ils se retirent, le professeur prépara la chambre contre toute intrusion du vampire et assura Mrs. Harker qu'elle pouvait reposer en paix. Elle fit un effort pour le croire, et de toute évidence, pour le bien de son mari, elle essaya d'avoir l'air content. Il s'agissait d'une lutte courageuse, et je pense et je crois qu'elle ne fut pas vaine. Van Helsing avait préparé une cloche à côté de chacun d'eux, afin qu'ils puissent sonner en cas d'urgence. Quand ils se furent retirés, Quincey, Godalming et moi, décidâmes que nous monterions la garde chacun notre tour, pour veiller à la sécurité de la pauvre femme accablée. La première garde échut à Quincey, afin que les autres puissent aller se reposer dans leur lit aussi vite que possible. Godalming s'est déjà couché, car il a le deuxième quart. Et maintenant que mon travail est fini, je vais y aller, moi aussi.
Journal de Jonathan Harker. Nuit du 3 au 4 octobre, un peu avant minuit.
Je crus que la journée d'hier ne finirait jamais. Il y avait en moi un désir ardent de dormir, par une sorte d'absurde espoir qu'à mon réveil, je trouverais les choses changées, nécessairement pour le mieux. Avant de nous séparer, nous discutâmes de notre prochaine étape, mais nous n'arrivâmes à aucune conclusion. Tout ce que nous savions, c'est qu'il restait une boîte de terre et que seul le comte savait où elle se trouvait. S'il choisissait de demeurer caché, il pouvait déjouer nos plans pendant des années, et entre-temps... La pensée est trop horrible, je n'ose me la formuler même à présent. Tout ce que je sais, c'est ceci. S'il y eut jamais une femme dotée de toutes les perfections, il s'agit de mon pauvre cher amour. Je l'aime un millier de fois plus depuis la douce compassion qu'elle a témoignée hier soir. Une compassion qui a rendu ma propre haine pour le monstre presque méprisable. Sans doute la mort d'une telle créature ne serait pas une grande perte pour la création. Cela représente un espoir pour moi. Nous sommes tous en train de partir à la dérive, entraînés vers des écueils, et la foi est notre seul ancrage. Dieu merci. Mina est endormie d'un sommeil sans rêve. J'ai peur de ce à quoi elle peut rêver, avec tant d'atroces souvenirs pour nourrir ses cauchemars. Elle n'a pas été aussi calme, à ma connaissance, depuis le coucher du soleil. Alors, pendant un moment, son visage se détendit comme une terre où vient le printemps après les giboulées de mars. Je crus à cet instant que c'était à cause de la douceur des rougeoiements du crépuscule sur son visage. Mais, d'une certaine façon, je savais qu'il y avait là une signification plus profonde à ce phénomène. Je n'ai pas sommeil moi-même, bien que je sois épuisé, mortellement épuisé. Mais je dois, quoi qu'il en soit, essayer de dormir, car il faut penser à demain. Il n'y aura pas de réel repos pour moi avant que...
Plus tard.
J'ai dû m'endormir, car j'ai été réveillé par Mina, qui s'était assise dans le lit, l'air affolé. Je pouvais la voir clairement, car nous n'avions pas laissé la chambre dans le noir. Elle avait placé une main sur ma bouche en guise d'alarme, et maintenant elle murmurait à mon oreille. « Chut, il y a quelqu'un dans le couloir. » Je me levai doucement, et, traversant la pièce, j'ouvris délicatement la porte. Juste au dehors, installé sur un matelas, se trouvait Mr. Morris, bien réveillé. Lui aussi leva une main pour m'inviter au silence, et me murmura « Chut, retournez au lit, tout va bien, l'un de nous veillera ici toute la nuit, nous ne voulons prendre aucun risque. » Son expression et son geste m'interdisaient toute discussion. Aussi, je revins dans la chambre et expliquai ce qui se passait à Mina. Elle soupira et l'ombre d'un sourire passa sur son pauvre visage pâle, comme elle passait les bras autour de moi et me disait doucement « Oh, que Dieu soit remercié de nous avoir envoyé ces hommes braves et bons !» Avec un soupir, elle se recoucha et s'endormit. J'écris ces lignes car je n'ai toujours pas sommeil, même si je sais que je dois essayer à nouveau de dormir.
4 octobre, matin.
J'ai été réveillé une fois encore par Mina pendant la nuit. Cette fois, nous avions tous les deux bien dormi, puisque les lueurs grises de l'aube accusaient la forme rectangulaire des fenêtres, et que la flamme du gaz ressemblait davantage à une petite tache qu'à un large disque de lumière. Elle me dit d'un ton pressant « Allez chercher le professeur, je veux le voir tout de suite. Pourquoi ?» demandai-je. J'ai une idée. Je suppose que cela m'est venu pendant la nuit et que j'ai mûri cela sans m'en rendre compte. Il doit m'hypnotiser avant l'aube et alors je serai capable de parler. Faites vite, mon cher, car l'aube est proche. J'allai à la porte. Le docteur Seward se reposait sur le matelas et, me voyant, il sauta sur ses pieds. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il alarmé. « Non, répondis-je, mais Mina veut voir le docteur Van Helsing séance tenante. »« J'y vais, » dit-il, et il se précipita dans la chambre du professeur. En 2 ou 3 minutes, Van Helsing se trouvait dans la chambre, vêtu de sa robe de chambre, et Mr. Morris et Lord Godalming étaient à la porte, en train de poser des questions au docteur Seward. Quand le professeur vit Mina sourire, d'un réel sourire qui chassait l'anxiété de son visage, il se frotta les mains et dit « Oh, ma chère Madame Mina, voici un grand changement. Vous voyez, ami Jonathan, nous avons retrouvé notre chère Madame Mina. C'est notre ami d'antan qui nous revient aujourd'hui. » Ensuite, il se tourna vers elle et il ajouta chaleureusement « Et que puis-je faire pour vous ? Car à cette heure-ci, vous ne demandez pas ma présence pour rien. « Je veux que vous m'hypnotisiez, » dit-elle. « Faites-le avant l'aube, car je sens qu'alors je pourrai parler et parler librement. Faites vite, il y a peu de temps. » Sans un mot, il la fit s'asseoir sur le lit. La regardant fixement, il commença à exécuter des passes devant elle, depuis le dessus de sa tête vers le bas, alternativement avec les deux mains. Mina le regarda également fixement pendant quelques minutes, pendant lesquelles mon propre cœur battit comme un marteau-pilon, car je sentais qu'une crise allait survenir. Peu à peu, ses yeux se fermèrent et elle se tint assise, absolument immobile. Seul le léger mouvement de sa poitrine pouvait indiquer qu'elle était vivante. Le professeur fit à nouveau quelques passes, puis s'arrêta, et je pus voir que son front ruisselait de sueur. Mina ouvrit les yeux, mais elle ne semblait pas être la même femme. Elle avait un regard lointain, et sa voix avait un accent tristement rêveur, qui était nouveau pour moi. Levant la main pour imposer le silence, le professeur se déplaça jusqu'à moi pour laisser entrer les autres. Mina ne parut pas se rendre compte de leur présence. Son immobilité fut brisée par la voix de Van Helsing, qui parlait d'un ton si bas qu'il ne dérangeait pas le cours de ses pensées. « Où êtes-vous ? » La réponse fut donnée d'un ton très neutre. « Je ne sais pas. Le sommeil n'a pas de lieu propre. » Pendant plusieurs minutes, ce fut le silence. Mina était assise, rigide, et le professeur était debout, les yeux fixés sur elle. Quant à nous autres, nous osions à peine respirer. La pièce était en train de s'éclairer. Sans lâcher Mina des yeux, le docteur Van Helsing se déplaça vers moi pour me faire signe de tirer les rideaux. Je m'exécutai, et le jour sembla nous inonder. Un rayon rouge frappa, et une lumière rosée parut se répandre à travers la pièce. À cet instant, le professeur reprit la parole. « Où êtes-vous à présent ?» La réponse fut rêveuse, mais volontaire, comme si Mina était en train d'interpréter quelque chose. Je l'avais déjà entendue utiliser la même intonation lorsqu'elle était en train de déchiffrer des notes sténographiées. Je l'ignore. Tout me semble étranger. Que voyez-vous ? Je ne vois rien, tout est noir. Qu'entendez-vous ? Je pouvais déceler la tension dans la voix patiente du professeur. Le clapotis de l'eau. Elle glougloute parfois, et de petites vagues déferlent. Je peux les entendre dehors. Alors, vous êtes dans un bateau ? Nous nous regardâmes tous, essayant de glaner quelque chose les uns des autres. Nous avions peur de formuler nos pensées. La réponse fut rapide. « Oh oui !»« Qu'entendez-vous d'autre ?» Le bruit des hommes se bousculant au-dessus. Il y a aussi le craquement d'une chaîne et le fort tintement du cabestan arrêté par le linguet. « Qu'êtes-vous en train de faire ?» Je suis immobile, oh, tellement immobile. C'est comme la mort. La voix s'éteignit dans un profond soupir, comme celle de quelqu'un qui s'endort, et les yeux ouverts se fermèrent à nouveau. À cette heure, le soleil s'était levé et nous étions inondés de la pleine lumière du jour. Le docteur Van Helsing plaça ses mains sur les épaules de Mina et fit reposer sa tête doucement sur l'oreiller. Elle resta allongée comme une enfant endormie pendant quelques instants, puis, avec un long soupir, elle s'éveilla et regarda avec étonnement autour d'elle. « Ai-je parlé dans mon sommeil ?» furent ses premiers mots. Elle semblait cependant comprendre la situation sans qu'on ait besoin de la lui expliquer, car elle désirait ardemment savoir ce qu'elle avait dit. Le professeur répéta la conversation, et elle dit « Alors, il n'y a pas un moment à perdre. Il n'est peut-être pas trop tard. » Mr. Morris et Lord Godalming avaient bondi à la porte, mais la voix calme du professeur les rappela à l'ordre. « Restez, mes amis. Le navire, où qu'il se trouve, était en train de lever l'ancre en même temps qu'elle parlait. Et il y a beaucoup de bateaux en train de lever l'ancre en ce moment même dans votre immense port de Londres. Quel est celui que vous cherchez ? Que grâce soit rendue à Dieu de ce que nous avons une nouvelle piste, bien que nous ne sachions pas où elle mène. Nous avons été aveugles, aveugles à la manière des hommes, car en regardant en arrière, nous voyons ce que nous aurions pu voir tout de suite si nous avions été capables de voir ce qui était laissé à notre vue. Hélas, vous vous cassez la tête sur cette phrase, n'est-ce pas ? Nous savons maintenant ce que le comte avait en tête lorsqu'il a ramassé cet argent alors que Jonathan le menaçait de son féroce couteau d'une façon que même lui devait craindre. Ce qu'il avait en tête, c'était la fuite. Vous m'entendez ? La fuite. Il a compris qu'avec une seule boîte de terre et une meute d'hommes à ses trousses, le traquant comme des limiers pour chasse un renard, cette ville de Londres n'était plus un endroit pour lui. Il pense à s'enfuir, mais non, nous le poursuivons. Taillot, comme dirait ami Arthur en enfilant son froc rouge. Notre vieux renard est rusé, vraiment très rusé, et nous devons nous aussi faire preuve de ruse pour le chasser. Moi aussi je suis rusé, et je serai dans sa tête dans un petit moment. Dans l'intervalle, nous pouvons nous reposer et nous sentir pleinement rassurés, car il y a des eaux vives entre lui et nous, qu'il n'a pas l'intention de traverser, qu'il ne pourrait pas traverser, même s'il le voulait, à moins que le bateau ait accosté, et encore, seulement à marée haute ou basse. Vous voyez. Et le soleil est à peine levé, et toute la journée jusqu'au crépuscule nous appartient. Prenons un bain, habillons-nous, et avalons un petit déjeuner dont nous avons tous besoin, et que nous pourrons déguster confortablement, en sachant qu'il ne se trouve pas sur la même terre que nous. Mina le regarda avec beaucoup d'ardeur et demanda « Mais pourquoi avons-nous besoin de le pourchasser encore, puisqu'il s'est enfui loin de nous ?» Il prit sa main et la tapota en répondant « Ne me posez pas de questions maintenant. Quand nous prendrons le petit déjeuner, là, je répondrai à toutes les questions. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus, et nous nous séparâmes pour nous préparer. Après le petit déjeuner, Mina répéta sa question. Il la regarda gravement pendant une minute et dit tristement « Parce que, ma chère, chère Madame Mina, nous devons le trouver, maintenant plus que jamais, même si pour cela nous devions nous jeter dans les mâchoires de l'enfer. » Elle pâlit et demanda faiblement « Pourquoi ?»« Parce que, répondit-il solennellement, il peut vivre pendant des siècles, tandis que vous, vous n'êtes qu'une femme mortelle. Le temps est notre ennemi depuis qu'il a apposé cette marque sur votre gorge. » Je la rattrapai juste à temps lorsqu'elle tomba en avant, évanouie.